La chambre d'hôtel, deuxième partie. Dès que Maurice m'aperçut, « Eh bien, me dit-il, m'apportez-vous ma photographie ?» Je la lui remis aussitôt. Ce portrait avait été tiré quelques heures après le crime. La tête de la victime respirait la terreur, les traits étaient convulsés, les yeux à demi fermés. Du reste, je ne comprenais guère de quel intérêt pouvait être cette pièce dans la recherche de la vérité. Maurice y jeta d'abord un regard distrait, puis tout à coup je vis son regard prendre cette étrange fixité dont j'ai parlé. Il s'absorba pendant près d'un quart d'heure dans une contemplation muette que je n'osais pas troubler, bien que je brûlasse de lui faire part de mes observations. Il se leva, alla à la bibliothèque, prit un titre que je reconnus pour le traité de Lavater, nota un passage, puis ferma le livre et se tourna vers moi. « Ah, me dites, je vous demande pardon. Eh bien, avez-vous quelque indice ?»« Mon cher, reprit Maurice, vous avez la curiosité des enfants. Depuis l'affaire de Lambert, vous me prenez pour une sorte d'escamoteur qui va faire disparaître une muscade sous un gobelet. »« Non, ne les croyez pas. » « Oh, je ne vous en blâme pas. Ce sentiment est essentiellement naturel. Mais souvenez-vous seulement de ce que je vous ai dit. Les causes attribuées à un fait, vous ai-je expliqué, ne sont généralement pas des causes secondaires. On passe presque toujours à côté de la vérité. Et dans l'affaire Beaujon, dans cette affaire, plus que dans toute autre, on a fait fausse route, j'en ai l'intime conviction. » Beaujon est-il donc innocent, à votre avis ? Bon, je ne dis ni oui ni non. D'abord, il faudrait nous entendre sur ce que vous appelez son innocence. A-t-il, oui ou non, commis le crime pour lequel il a été condamné ? Non, modifiez votre question. Dites, a-t-il commis l'acte ? Ici, je puis déjà vous répondre oui. Il a étranglé de faux dons. Est-il coupable ? Non, cela est à discuter. Voulez-vous que je vous explique mes idées à ce sujet ? Certes. Je racontai alors toutes les circonstances de mon entretien avec l'avocat. Maurice m'écoutait avec le plus grand soin, sans m'interrompre. J'aurais voulu provoquer un geste, un mot, une exclamation. J'avoue même que je comptais sur une approbation énergique. Maurice resta parfaitement froid. J'eus quelque peine à dissimuler mon dépit et, dans mon fort intérieur, j'attribuais cette indifférence à une certaine jalousie de métier. « Eh bien, demandai-je, c'est ingénieux, répondit Maurice. Mais cela tout, m'écriai-je avec une certaine impatience. Maurice ne put s'empêcher de sourire. Mon cher ami, reprit-il, permettez-moi de vous expliquer en quoi et pourquoi vous n'avez réalisé aucune découverte utile. Vous vous êtes basé dans vos recherches sur la seule question de sentiment. Si vous n'aviez pas assisté avec moi à ce procès, autrement dit, si vous n'étiez point venu au tribunal avec cette idée préconçue qu'il fallait absolument découvrir un mystère, vous ne vous seriez même pas posé le problème. Et aujourd'hui, il vous faut à tout prix une solution. Et c'est sur cette nécessité que vous vous êtes forgé vous-même que vous bâtissez un système de toutes pièces. Votre système d'aliénation mentale à sa période d'incubation est curieux et séduisant à première vue. Dès que cette idée a surgi en vous, vous vous êtes dit « Oh, cela pourrait être vrai, donc cela doit être vrai, donc cela est vrai ». Alors vous avez élevé votre petit monument en l'adaptant à des bases de fantaisie. Comprenez-moi bien, si dans certains faits de la cause vous aviez vu poindre cette idée de folie, si alors, saisissant en main ce fil si ténu qu'il parut, vous étiez engagé dans le labyrinthe des circonstances accessoires et que peu à peu ces points de repère se fussent rangés d'eux-mêmes sur votre route, vous conduisant insensiblement à la certitude, alors je vous dirai que vous avez raison, et je n'aurai pas assez de félicitations à vous adresser. Mais laissez-moi vous dire que vous avez agi de façon toute différente. Vous avez admis d'abord l'aliénation mentale, Vous avez fait entrer l'affaire Bourgeon dans votre cadre, la torturant au besoin comme sur un lit de Procuste. Je baissai la tête, sentant toute la justesse de ces observations. Et en résumé, continua l'impitoyable analyste, sur quoi comptez-vous pour établir la véracité de votre hypothèse ? Sur un délai lui-même hypothétique, sur une chance plus ou moins probable que la folie se développera par la réclusion et que l'accès qui ne serait déjà produit se reproduirait. Mais supposez un instant que, ainsi que le fait s'est déjà présenté, l'hallucination toute accidentelle ne se renouvelle point. Supposez encore que la secousse même produite par la condamnation ait amené la guérison. Où en sera votre démonstration ? « Oh, assez !» m'écriai-je. « Bien, je me rends. » Mais vous vous rendez aussi vite que vous avez su triompher. Croyez-moi, cher ami, pas plus de découragement que d'entraînement irréfléchi. Bon, laissons cela, j'ai fait un impair, comme on dit. Du moins, votre erreur n'est-elle pas dangereuse et ne fera-t-elle de tort à personne ? Donc ne vous désolez point. Vos recherches même témoignent d'une grande volonté, mais, comme vous le dites, laissons cela, j'ai besoin de vous. Oh, je suis tout à vous, mais du moins ne me tiendrez-vous point au courant du résultat de vos recherches. Si fait, mais laissez-moi me livrer d'abord à ces recherches. Pourriez-vous savoir si jamais de Faudon a été malade et retrouvé le médecin qui l'aurait soigné ? Oui, c'est facile. Et comme nous n'avons pas de temps à perdre, j'abuserai de votre complaisance. Veuillez aller immédiatement à l'hôtel de Bretagne du Périgord, demander si la chambre occupée par de Faudon est libre, et louez-la aussitôt pour moi. Surtout que l'on ne touche à rien et qu'on la laisse exactement en l'état où elle se trouve. Cela sera fait. Bien, maintenant je vais vous demander quelque chose qui pèsera votre amitié. J'ai besoin de 15 jours d'absolue solitude. Voulez-vous me les donner ? Oui, grand alchimiste, je ne viendrai pas troubler le grand œuvre. Bien, pour vous remercier, je vous dirai ceci. Beaujean a étranglé de Faudon. Son récit est absolument vrai. Donc Beaujean est innocent. Mais il n'est pas fou. Maurice se leva, me serra la main et me dit en souriant. C'est aujourd'hui mardi, donc d'aujourd'hui en 15 jours, je vous attends. On comprendra si je devais être exact au rendez-vous. J'avoue très franchement, dût-on me taxer de vanité ou d'inconséquence, que pendant toute cette quinzaine, je me creusais la tête pour trouver la solution du problème dont je m'étais promis, dont je m'étais imposé d'étudier les termes. J'aurais dû, à mon grand regret, abandonner l'hypothèse de l'aliénation mentale. En effet, groupant à nouveau les diverses circonstances du procès, je n'avais rien trouvé qui pût produire en moi, je ne dirais pas une certitude, mais seulement une probabilité réelle. Mais quelle était donc la voie suivie par Maurice ? Cet homme commençait à éveiller en moi une surprise profonde. 10 fois j'étais allé frapper à sa porte, 10 fois il m'avait été répondu qu'il était à la campagne. Aucun de nos amis ne l'avait rencontré, il était devenu complètement invisible. Était-il absent de Paris ? Pour moi, je ne le croyais pas. Je comptais les jours et l'affaire Beaujean était devenue pour moi une sorte de cauchemar. Maurice n'avait-il pas dit qu'il était innocent ? Certes, l'opinion publique est facile à contenter. Quand un homme est sous le coup d'une accusation capitale et qu'il échappe à la peine de mort, alors même qu'il est frappé d'une terrible condamnation, l'impression générale est celle-ci. Il est bien heureux de s'en tirer à ce prix. On ne songe pas à plaindre l'homme dont la vie est perdue, qui a devant lui 10 longues et mortelles années de détention, qui voit tout son avenir détruit, toutes ses espérances brisées. Il est si heureux de s'en être tiré à ce prix. Passionné pour les condamnés à mort, pour les coupables frappés d'une peine perpétuelle, le public est indifférent pour les condamnations à temps, sans réfléchir que les premières années sont aussi horribles et aussi douloureuses, quelle que soit la durée de la peine à subir. L'espérance ne vient que bien longtemps après l'épuisement du désespoir. Par exception, le silence ne s'était pas fait immédiatement autour de l'affaire Baugeon. Et ce regain de popularité était dû à l'étrangeté du personnage qui avait comparu devant les assises sous le nom de fille Ganguerlot. Cette aventure l'avait mise à la mode et, pour tout dire, avait fait sa fortune. La voiture et les promenades au bois ne s'étaient pas fait attendre. Les viveurs l'avaient appelé à leur souper et leur raout. Sa bêtise même faisait sa force. Elle était passée à l'état d'étoile. On parlait de son prochain engagement dans un théâtre de genre. Enfin, il ne lui manquait plus pour arriver à l'apogée de sa gloire éphémère que le mariage obligatoire avec quelque Anglais excentrique. L'attention était donc ramenée vers Baugeon, qui, on le sait, s'était immédiatement pourvu en cassation. À la suite de ces accès de colère dont il avait été saisi lors de sa réintégration dans la prison, Baugeon avait été en proie à une fièvre ardente qui avait mis ses jours en danger. À cet état avait succédé une prostration générale. On redoubla de surveillance à l'égard du condamné auquel on supposait des idées de suicide. Les petits journaux s'étaient emparés de la bestia et lui avaient fait une popularité de mauvais aloi à la Nina Lassaille. L'ancienne maîtresse de l'assassin Baugeon endossait quotidiennement des mots que lui attribuaient les faiseurs d'ordinaire. Sa bêtise, exagérée à dessein, menaçait de devenir légendaire. Elle faisait concurrence à Lapalisse et à Calino, ces deux types de la naïveté inintelligente. Je notais soigneusement tous ces détails. La pensée m'était venue un instant que la bestia pouvait fournir quelques renseignements. Je l'avais surveillée, je l'avais épiée. J'espérais qu'un mot lui échapperait, me mettant sur la trace de quelque observation jusqu'alors négligée, mais en vain. Je n'avais pas cessé un seul jour de voir l'avocat de Baugeon. Je lui avais fait part de mes perplexités. Mais après avoir accueilli d'abord avec complaisance mon hypothèse d'aliénation mentale, l'homme de loi était promptement revenu à sa conviction première, la culpabilité réelle, absolue, complète de Baugeon, pour accepter dans son intégrité le système de l'accusation. Sans attribuer à la jalousie seule le mouvement de violence de l'assassin, l'avocat pensait qu'un motif accidentel avait donné lieu à la querelle à la suite de laquelle Defaudon avait succombé. « Vous devriez connaître mieux les jeunes gens, me disait-il. Ils ont souvent des pudeurs inouïes et la crainte du ridicule peut les amener à de véritables aberrations. Il y a eu querelle, ceci ne fait pas pour toi l'ombre d'un doute. Mais cette querelle procède peut-être d'un de ces mots sans importance qui échappent parfois dans la conversation, et c'est la banalité même de ce point de départ qui s'oppose à ce que Baugeon le fasse connaître. Je suis convaincu de plus qu'il n'avait pas l'intention de tuer. Dans cette courte lutte, le même accident aurait pu se produire en sens contraire. Defaudon aurait pu tuer Baugeon sans plus de préméditation. » En somme, le verdict du jury a tenu compte de ces circonstances. Si la conduite de Baugeon est satisfaisante, comme je l'espère, on lui procurera quelques adoucissements dans sa captivité. Il pourra être bibliothécaire, comptable, que sais-je. Enfin, d'ici à quelques années, on obtiendra remise d'une partie de sa peine. Croyez-moi, ne vous préoccupez plus de cette affaire. Il en est malheureusement trop qui sont plus terribles et par conséquent plus intéressantes. Je me serais peut-être rendu à ces raisons. Le délai fixé par Maurice était sur le point d'expirer. Il ne m'avait pas donné signe de vie. Je pensais parfois qu'il n'avait absolument rien découvert et que peut-être même dès le premier jour, il savait exactement à quoi s'en tenir et que seul l'amour-propre l'avait engagé à retarder cet aveu. Mais malgré moi, je ne pouvais arracher ces préoccupations de mon esprit. J'étais littéralement obsédé. Mon imagination me représentait Beaujon dans sa cellule, songeant à cette horrible condamnation, se demandant par quel enchaînement de circonstances la fatalité l'avait poussé dans cet abîme. J'accusais Maurice de lenteur, d'insouciance. Je voulais me persuader qu'avec ses facultés extraordinaires, il aurait dû réussir plus vite et plus tôt. Un matin, vers 7 heures, on frappa à ma porte. J'ouvris précipitamment. C'était Maurice. Une demi-obscurité régna dans ma chambre. Je tirai les rideaux et me retournai en tendant les bras à mon ami. Mais je reculai involontairement en poussant un cri de surprise. J'ai, dans un autre récit, le clou, esquissé la physionomie de Maurice Parent. C'était, je dis, un homme d'environ 33 ou 35 ans, de taille moyenne, mince et bien proportionné. Son visage, peu frappant à première vue, attirait bientôt l'attention par la singularité de ses yeux, dont le regard semblait avoir des propriétés toutes particulières. Ils étaient vifs, mobiles, enfoncés sous l'arcade sourcilière. Lorsqu'il se fixait sur un point quelconque, ou lorsque la méditation s'emparait de lui, il déviait sous l'influence d'un strabisme passager, si bien que les rayons des deux yeux convergeaient sur l'objet examiné. Et lorsque cette attention avait pour objectif une pensée intérieure, les yeux s'immobilisaient, se pétrifiaient, se cristallisaient, pour ainsi dire, et il m'eût été impossible d'expliquer comment ses regards semblaient se diriger au-dedans et non plus au-dehors. Et cependant, c'était bien l'impression que ses yeux me causaient alors. Maurice était ordinairement pâle, mais d'une pâleur saine. Son teint uni avait la couleur mate et uniforme qui tient plus au grain même de l'épiderme qu'à l'état de la santé. Mais ce matin-là, Maurice était à peine reconnaissable. Il était livide, amaigri comme un anachorète sortant de sa thébaïde. Les ombres de son visage s'accentuaient de touches de bistre. Ses yeux, entourés d'un cercle noirâtre, brillaient comme ces anthracites qui ressemblent aux diamants de la nuit. « Qu'avez-vous ? » m'écriai-je. « Que vous est-il arrivé ?» Il me regarda avec surprise, et ses lèvres amincies ébauchèrent un sourire. « Que signifie cette question ? » me répondit-il. « Mais, continuai-je en hésitant, n'êtes-vous pas malade ? » ?»« Nullement ! » « Mais regardez-vous donc, » fis-je en l'amenant devant la glace qui augmentait, surmontait la cheminée. Il s'examina longuement. « Oh, je comprends, » murmura-t-il. Puis de sa voix claire et nette, « Oh, ne vous effrayez pas, je suis aussi bien portant que jamais. Un peu de fatigue, voilà tout, mais laissez-moi m'asseoir, nous avons à causer. » En entendant s'exprimer avec cette aisance et cette parfaite liberté, je sentis mes craintes s'évanouir. Nous nous installâmes au coin de la cheminée, et j'allais de nouveau lui adresser la parole, mais m'arrêta d'un geste. « Oh, ne m'interrogez pas, » dit-il. « Depuis 15 jours, n'ai pas une seule minute, une seule seconde, laissé échapper le fil de ma pensée. » J'ai suivi, sans hésiter, sans chanceler, ma route droite et inflexible. Le temps n'est pas encore venu où je puis rendre à mon esprit sa liberté d'action. Il faut que je le maintienne immobile sur le chevalet où je l'ai couché. Bon, je n'ai pas entendu la voix d'un être humain. Et si je suis venu ici, c'est que je sais que peu à peu, je pourrai écouter la vôtre sans que la transition soit trop brusque. Il y a longtemps que je me suis habitué à vous entendre. Votre note ne désharmonisera pas ma pensée. Cela peut vous sembler étrange. Oui, bien, il faut que je m'explique mieux. Envoyez chercher du café noir, et dans 10 minutes je vous parlerai. Pendant ce temps, laissez-moi seul. Il faut aussi que je m'habitue, que je me réhabitue aux objets qui m'entourent ici. Je sortis aussitôt. En dépit de moi-même, je me sentais inquiet. Était-ce donc l'affaire Beaujon qui avait amené chez mon ami cet incroyable changement? Ou quelque événement inconnu, quelque malheur l'avait-il frappé tout à coup? Cette admirable intelligence avait-elle donc été ébranlée par un choc soudain? Lorsque je rentrais dans ma chambre, Maurice était debout devant la cheminée. Son visage s'était éclairci. Ses yeux avaient repris leur vitalité. Son sourire avait retrouvé cette expression à la fois douce et profonde qui donnait à son regard une beauté exceptionnelle. Il me tendit la main. « Là, dit-il, me voilà nivelé. Tu vois que cela n'a pas été long. » On remarquera que nous employions indistinctement le « tu » ou le « vous ». Lorsque Maurice se trouvait dans ce que j'appelais la période méditative, alors involontairement et comme à notre insu, de part et d'autre, nous perdions les formules de la familiarité. Le tutoiement par lequel il m'accueillit me parut de bon augure, et je lui serrai la main avec effusion. « Puis-je parler maintenant ?» lui demandai-je en souriant. « Je te pardonne l'épigramme, répondit-il, car en vérité je dois te paraître bizarre. Oh, tu ne me connais pas encore complètement. Je ne sais d'ailleurs si je me connais bien moi-même. Mais avec ta bonne volonté, nous allons tâcher de nous rendre un compte exact de l'état dans lequel je me trouve. Et d'abord, pour ne pas laisser plus longtemps ta curiosité en suspens, je te dirai que, depuis la dernière fois que nous nous sommes vus, je n'ai pas cessé un seul instant de m'occuper de l'affaire Beaujon. « Ah ! » fis-je dans un élan de joie involontaire. « Et tu as réussi ?»« Pas d'impatience, j'y viendrai tout à l'heure. » Je dois te dire que, dès le principe, j'avais un plan presque complètement tracé. Mais l'idée même qui avait surgi en moi impliquait de telles difficultés que les simples procédés de l'induction applicables à l'affaire Lambert, que tu n'as pas oublié, étaient ici tout à fait insuffisants. Il ne s'agissait plus, dans le cas actuel, de faits matériels, palpables, de circonstances, si petites qu'elles fussent, qui puissent me servir de jalon dans mes recherches. Dans l'affaire Lambert, le mari avait assassiné sa femme. Il savait lui-même comment le fait s'était passé. Il ne s'agissait donc, en quelque sorte, que de le faire parler, d'interroger les événements eux-mêmes, de retrouver, si je puis dire ainsi, la trace physique qu'ils avaient nécessairement laissée de leur passage. Tu comprends toute l'importance de ce point. Le meurtrier savait. Il fallait se substituer à lui, entrer dans sa pensée, l'étudier dans ses moindres mouvements, dans les plus insignifiantes manifestations de sa conscience. Pour tout dire, le problème existait. Les termes en étaient posés. On était à la recherche d'une inconnue, mais au moins on était en possession des premiers termes de l'équation. Ici, au contraire, écoute bien ceci et que cela te serve de renseignement sur l'utilité des moyens barbares employés au Moyen-Âge pour parvenir à la découverte de la vérité. Beaujon eût-il été appliqué à la torture, à la question ordinaire et extraordinaire, eût-on brisé ses membres, déchiré son corps, jamais on n'aurait pu lui arracher un aveu réel. Peut-être se serait-il avoué coupable, peut-être eût-il bâti une fable pour donner corps à l'accusation et par conséquent faire cesser ses tourments. Mais il aurait menti, par cette raison effrayante, incroyable, qu'il ne connaît pas la vérité. Ceci semble insensé, ce n'est rien encore. Beaujon était seul avec de Faudon. Nul n'a pénétré dans la chambre. C'est bien Beaujon qui a tué de Faudon. Et Beaujon ne sait ni comment ni pourquoi le fait s'est produit. Chose plus effrayante encore, il peut croire qu'une partie du système d'accusation est fondée. Il peut supposer que de Faudon s'est jeté sur lui dans un accès de jalousie. En un mot, ni commissaire de police, ni juge d'instruction, ni procureur général, ni juré, ni président, ni accusé ne savent la vérité. Maurice s'arrêta, j'étais atterré. Ainsi, m'écriai-je, sans toi, et j'appuyai fortement sur ces mots, sans toi, jamais on n'aurait connu cette vérité. Bon, je n'y mets aucune vanité, quoi le bien, mais ce que tu viens de dire est exact. Sans moi, ce problème fut resté à jamais insoluble. Il fallait ce concours de circonstances inouïes, que tu me fisses la proposition dont tu te souviens, que certains mots dans l'acte d'accusation et les réponses des accusés me donnassent l'éveil, et qu'enfin je fusse venu assister à ces débats, moi que l'insoluble attire, moi que l'inconnu subjugue, que l'impossibilité fascine. Il fallait en outre que je ne fisse pas fausse route une seule minute. Et maintenant je vais t'expliquer le sens de mes premières paroles. Je vais t'expliquer pourquoi tu n'as pas vu, pourquoi tu n'as pas entendu parler de moi depuis ces 15 jours. En vérité, dans ce moment où, maître de lui-même, Maurice, de sa voix calme, exposait lentement, sans emphase, sans entraînement, la philosophie de cette incroyable affaire, je me sentais saisi pour lui d'une admiration sans bornes. Sa tête s'était rejetée en arrière, son regard avait pris cette fixité qui le rendait si remarquable. On comprenait ce qu'avait été autant antique que la pitié sur son trépied. « Tu as donc bien saisi, continua-t-il, ce fait important. Tout point de repère me manquait. Il fallait reconstruire le drame de toute pièce, non en ce qui constituait la scène même du meurtre, mais dans ses antécédents, dans ses causes. C'est d'ailleurs ce qu'avait tenté de faire l'accusation en s'attachant à la prétendue passion de ces jeunes gens pour la ganguelot. Or, voici quel a été mon premier mode de procédé. Étudiante, avec la plus minutieuse attention, je dirais presque à la loupe, les termes de l'acte de l'accusation, les réponses de Beaujon, les dépositions des témoins, je me suis demandé si des détails n'étaient point passés inaperçus qui comportassent un examen plus sérieux. Et tout d'abord, j'ai acquis une conviction absolue, procédant d'une constatation dont tu vas toi-même reconnaître l'exactitude. Dans toute cette affaire, on s'est préoccupé du passé de l'accusé ou des témoins. On a groupé, après les avoir recherchés, toutes les circonstances de nature à éclairer l'opinion sur leur caractère, sur leurs sentiments probables. On a fait, en un mot, sur Beaujon et sur la bestia, une enquête soigneuse. Mais on a complètement négligé de faire le même travail au sujet d'un des deux acteurs de ce terrible drame. On n'a pas un seul instant recherché qui était moralement et physiquement de Faudon, la victime, le mort. D'enquête à son sujet, il n'en a pas été question. Ainsi agit toujours la justice, obéissant à l'une des infirmités de la nature humaine. Elle se donne un objectif, elle délimite d'abord la route qu'elle devra suivre, ne s'en écarte à aucun prix. Pour elle, le raisonnement était celui-ci. Beaujon est coupable, il ne peut pas ne pas être coupable, il faut donc justifier l'accusation. Tous ces raisonnements sont de bonne foi. Alors on cherche, on bâtit un système sur un plan donné d'avance, on néglige ce qui ne paraît pas concluant, on donne une importance énorme à des faits qui ne seraient point remarqués si, de prime abord, on n'avait pas la conviction de la culpabilité. Et c'est ainsi qu'on voit produire devant les jurés ces conversations qui n'avaient aucune valeur, qu'on rappelle ces mots qui n'avaient aucun sens précis. On pressure, on torture les moindres détails pour les ajuster au moule construit par la prévention. Et dans le cas actuel, il est facile de reconnaître les traces de ce travail. Les éléments réunis par l'enquête m'ont convaincu personne. Le verdict même du jury en est la preuve. Et quelles sont dans ce cas les circonstances atténuantes, sinon la constatation d'un doute? Maintenant, continua Maurice, venons à ceci. Nous sommes en présence de trois systèmes différents. L'un, formulé par l'accusation, attribuant le meurtre de De Faudon à un acte volontaire de Beaujon, non prémédité, mais déterminé par une explosion irrésistible de colère et de jalousie. Le second système, si toutefois il mérite ce nom, est celui de Beaujon. « Je ne sais rien, dit-il. Delodon s'est jeté sur moi, j'ignore pour quelle raison. Je me suis défendu et j'ai eu le malheur de le tuer. J'arrive, moi, avec le troisième système, qui est la vérité. Beaujon est innocent, m'écriai-je, absolument. Alors il est fou, non pas. Tu tombes toi-même dans le défaut que je te signalais. N'y a-t-il donc, en dehors de Beaujon, personne dont l'état ait dû influer sur l'événement ? De Faudon, enfin, tu as bien voulu penser à lui. Remarque combien cette idée a été lente à se produire sur toi. Alors, selon toi, Delodon, dans un accès de folie, s'est jeté sur Beaujon. Oui, en effet, rien de plus rationnel, rien de plus plausible. Mais qu'il est étrange que cette pensée ne soit venue à personne. Fort heureusement, reprit Maurice en souriant, car d'un seul mot, tu vas aux dernières limites du possible. Je ne t'ai pas amené à ce point de ma démonstration pour te déclarer que tel ou tel était l'état de De Faudon, mais uniquement pour que tu comprisses qu'il y avait là toute une voie nouvelle, à savoir l'étude de l'état de De Faudon. Comprends-tu la faute commise par tous ? L'acte de Beaujon a violemment attiré l'attention sur lui. C'est donc lui qui, dès le principe, est devenu le point de mire de toutes les recherches. Or, je dis que c'était sur De Faudon qu'on devait se diriger l'enquête. C'est cette tâche que j'ai assumée. J'écoutais avec une attention croissante. C'était toute une révélation et je sentais instinctivement que Maurice était sur la véritable piste. Il continua. Tu dois comprendre maintenant comment pendant 15 jours je me suis absolument séquestré du monde. J'avais besoin de m'identifier à la nature d'un homme que je n'avais pas connu, de reconstituer pièce par pièce un caractère que je n'avais jamais été à portée d'apprécier. Et je n'avais d'autres données que quelques mots saisis ça et là dans des actes et des pièces où quelques points de repère s'étaient glissés par hasard et comme à l'insu de tous. Et ces 15 jours, je les ai passés dans la chambre où le crime a été commis. Je dis « crime » pour me conformer au verdict rendu. Mais je prouverai qu'il y eut purement et simplement accident. Oui, pendant 15 jours, dormant à peine, ne mangeant que tout juste assez pour ne pas mourir de faim, j'ai vécu de la vie de De Faudon. J'ai surexcité ma propre nature pour la mettre au diapason de la sienne. Et j'ai réussi. Eh bien, m'écriai-je en voyant qu'il s'arrêtait, je ne veux point t'en dire plus. Aujourd'hui, à 3 heures, viens à l'hôtel de France et du Périgord, rue des Grès. Tu y trouveras quelques autres personnes que j'ai convoquées, et là, je vous dirai tout. Alors, du reste, aura lieu une épreuve suprême qui prouvera la réalité de mes déductions. À 3 heures donc. À 3 heures. Et Maurice sortit. L'hôtel de la rue des Grès était une de ces vieilles maisons à l'allure lourde et respectable, comme il n'en reste guère aujourd'hui. On devinait que des générations d'étudiants avaient passé par là, et que sur ce palier, plus d'un avait frissonné sous son habit râpé, qui aujourd'hui occupait une place parmi les privilégiés de la faculté. Plus d'un s'était hâté devant la loge du concierge, créant une réclamation qui, aujourd'hui, comptait les revenus d'une clientèle sérieuse. Plus d'un, enfin, était sorti, la tête haute et le front étincelant d'espérance, qui était mort dans quelque coin, rongeant sa dernière désillusion avec son dernier morceau de pain. Au résumé, maison mal tenue, d'apparence morne et grognon, Sa façade semblait dire « Je suis ce que je suis, qui ne veut de moi me peut passer. » C'était là qu'avaient demeuré Beaujon et de Faudon. Je m'enquis auprès de la propriétaire qui occupait le bureau. Elle m'indiqua la chambre. J'y montai rapidement par un vieil escalier, large et solide, à rampe fièrement campée, à balustrade massive, surchargée de poussière où mes doigts témoignèrent par écrit qu'on avait guère épousseté. Je frappai à une lourde porte qui s'ouvrit aussitôt. Maurice était seul. Je regardais autour de moi avec curiosité. « Voici la chambre, me dit Maurice. » La description qui avait été faite par Beaujon à l'audience était exacte. C'était une grande pièce, d'ancienne construction et disposition, comme toute la maison, une de ces chambres comme on n'en trouve plus qu'au Marais ou dans le faubourg Saint-Germain. Les murs étaient couverts d'un papier autrefois décoré de fleurs, mais aujourd'hui de couleurs si ternies, si fanées, que tout disparaissait sous une même teinte grisâtre. Il était déchiré en plusieurs endroits, notamment au-dessus de la plinthe. En entrant, on avait à sa droite la fenêtre haute et large ouvrant sur la rue. À sa gauche, occupant presque toute la largeur du panneau, un lit, forme dite bateau. De grands rideaux de calicot blanc, bordés d'une bande de jaconas à fleurs jaunes, pendaient d'une flèche fixée au mur et enveloppaient le lit. Trop court cependant pour toucher le parquet, il s'arrêtait à mi-hauteur du bateau. À la tête du lit, un de ces meubles connus de nos pères sous le nom de servante faisait office de table de nuit. En face de la porte, une cheminée surmontée d'une glace faite de deux morceaux encadrés de bois peint en blanc. Et dans ce cadre, au-dessus du miroir, les restes d'une vieille peinture qui autant jadis avait eu la prétention de représenter des amours lutinant une nymphe. Auprès de la cheminée, un fauteuil en velours d'Utrecht, forme dite bergère. À terre, devant le lit, une descente de lit coupée dans quelque ancienne tapisserie. En face de la cheminée, c'est-à-dire auprès de la porte d'entrée, un bureau en bois noirci. Maurice avait fait disposer devant la fenêtre une table ronde recouverte d'un drap vert, sorte de bureau autour duquel des fauteuils semblaient attendre un conseil d'administration. Oh, « Je t'ai fait venir le premier, me dit Maurice, afin que tu puisses m'aider dans mes dernières dispositions. Qui attends-tu? Trois personnes d'abord qui prendront place avec nous à cette table, puis quelques témoins et parmi eux le père de Defaudon. C'est à son sujet que je dois te faire quelques recommandations. Le propriétaire a mis à ma disposition la chambre d'à côté. C'est là que restera M. Defaudon père, jusqu'à ce que j'aie besoin de lui. Tu iras le chercher lorsque je te le dirai. Oh, c'est bien, mais quelles sont les trois personnes qui doivent constituer notre tribunal? Car je devine que ton intention est de refaire l'instruction et le procès. » Au même instant, on frappa à la porte. Maurice ouvrit. Je reconnus B, l'avocat de Beaujon. Il était accompagné d'un vieillard. « Je vous remercie de votre exactitude, » dit Maurice en serrant la main de B et en saluant le vieillard. Il me présenta à ce dernier, puis m'apprit que c'était le président du jury qui avait condamné Beaujon. Un instant après, arriva le troisième personne. Je ne pus retenir un geste de surprise. C'était l'avocat général qui avait requis dans l'affaire. « Monsieur, dit-il à Maurice, vous avez fait appel à mon impartialité et à mon honneur de magistrat. L'estime toute particulière que m'inspire votre caractère a fait taire en moi toute hésitation. Quelque étrange que puisse paraître cette démarche, j'ai la conviction qu'un homme de votre intelligence apprécie toute l'estime dont lui témoigne ma présence. » Comment Maurice avait-il pu décider l'avocat général et le président du jury à cette révision intime d'une affaire déjà jugée, C'est ce qu'il serait difficile de comprendre si l'on ne tenait compte de l'ascendant extraordinaire qu'il savait prendre sur les hommes avec lesquels il se mettait en relation. Ancien employé du ministère, sans grande fortune, sans titre officiel, Maurice était partout accueilli avec la considération que méritait et que lui conciliait sa grande intelligence. En ce moment, j'étais fier de lui, et malgré moi, je ne pouvais me défendre d'un certain mouvement d'inquiétude. Je le regardais, il était calme, quoique plus pâle qu'à l'ordinaire. Mais ses yeux parlaient, vivaient, imposaient la confiance. Je lui serrai vivement la main, comme à la dérobée. Il se retourna, me regarda avec douceur, me fit un petit signe comme pour me rassurer, puis invita ses hôtes à prendre place autour de la table. « Ah !» fit tout à coup Maurice en se tournant vers moi, « j'attends aussi un médecin. Dès qu'il sera arrivé, tu te le placeras à côté de M. de Faudon, père, dans l'autre chambre. Il sait ce qu'il a à faire. « Maintenant, messieurs, » continua-t-il en s'inclinant légèrement devant ses hôtes, « je suis à vous. » Il plaça sur la table divers objets, des papiers, une petite boîte, et assis sur le fauteuil qui s'adossait à la fenêtre. « Messieurs, » commença-t-il, « il y a en ce moment, dans une cellule de prison, un homme qui a été condamné à 10 années de réclusion. Cet homme a failli être condamné à mort. Eh bien, je vous affirme, et vous serez bientôt de mon avis, que cet homme est absolument innocent. Oh, loin de moi la pensée d'accuser ici ceux qui ont contribué de près ou de loin à sa condamnation, car lorsque vous saurez la vérité, vous comprendrez qu'il était impossible à la justice de connaître les incroyables circonstances de cet accident. » Je regardais l'avocat général et le président du jury. Ils ne firent pas un seul geste de protestation ni d'incrédulité. Ils attendaient. Maurice ouvrit une petite boîte plate qui se trouvait à portée de sa main. « Ceci, dit-il, est le portrait de De Faudon fait après décès. Veuillez le regarder avec soin, vous bien pénétrer des traits de cette physionomie. » Le portrait passa dans chaque main. « Vous comprenez, reprit Maurice, que ce portrait est le premier témoin dont l'examen puisse apporter ici quelques lumières. En effet, l'homme est mort rapidement. La photographie a été tirée presque aussitôt. La physionomie de la victime a gardé l'empreinte des sentiments qui éclatèrent dans ce cerveau au moment même de la commotion mortelle. Interroger ce portrait, c'est donc le seul moyen qui soit en notre pouvoir d'établir une communication quelconque entre la victime et nous, et sinon le seul, comme je vous le prouverai, du moins le premier, le plus simple et le mieux à notre portée. Ne croyez d'ailleurs pas que je joue sur les mots. Il est possible d'interroger une chose inerte. La regarder rapidement, d'un coup d'œil inattentif et réfléchi, si je puis dire, c'est ne lui rien demander. Au contraire, tendez votre esprit sur cet examen, étudiez une à une toutes ces lignes, et vous serez surpris de voir l'idée se dégager peu à peu et s'imposer à votre conscience. Cette physionomie, continua Maurice, porte un caractère saillant, évident. Quel est-il à votre avis, monsieur l'avocat général ? C'est évidemment la terreur, répondit le magistrat. Maurice ne put réprimer un sourire. Permettez-moi de vous arrêter à cette première appréciation. Non, non, cette physionomie n'exprime pas la terreur. Examinez avec moi, vous allez en être convaincu. Prenez cette glace et regardez-vous bien. Bon, maintenant, donnez à votre physionomie l'expression de l'effroi. C'est cela, mais accentuez, accentuez encore. Le magistrat, obéissant au désir de Maurice, s'efforçait de traduire sur son visage le sentiment de la terreur la plus profonde. Il tenait à la main une petite glace ovale et étudiait curieusement les contractions qui se produisait sur son visage. « Fort bien !» s'écria Maurice. « Une seconde de patience. Remarquez ces points principaux. Vos yeux sont démesurément ouverts, les sourcils relevés, le front est plissé. La bouche est ouverte, les joues sont tendues sans un seul pli. Les rides même qui contournent la bouche à la commissure des lèvres ont disparu. Caractère général, extension de la face. Maintenant, regardez encore cette photographie et dites-moi si votre idée subsiste. C'est vrai, s'écria l'avocat, aucun de ces caractères ne se reproduit sur ce visage. Encore un détail important. Dans la tension des traits sous l'impression de la terreur, les lèvres, notamment, sont dépourvues de toute espèce de pli ou de contraction. Regardez les lèvres du mort. L'observation était juste. La lèvre inférieure du portrait était tordue et en quelque sorte convulsée. Oh, vous me pouvez faire observer que la mort, quoique récente lorsque ce portrait a été fait, peut avoir modifié certains traits. Je serais de votre avis si nous constations une absence de contraction. La mort peut produire le repos et la distension des muscles. Mais toutes les contractions qui ont subsisté pendant la première heure qui a suivi le décès ont évidemment nécessairement préexisté à la mort, ou plutôt se sont produites simultanément avec la catastrophe finale. Étudions maintenant le caractère de ces contractions qui jusqu'ici vous paraissent comme à moi ne pas être expliquées par l'effroi. Certes, je sais bien que rien ne pouvait venir plus naturellement à l'esprit que cette première hypothèse. Une lutte s'engage, le plus faible succombe, et au moment où il sent que sa force est en défaut, il est saisi d'une terreur folle. Oui, cela est vrai, à moins, écoutez bien ceci, à moins qu'un sentiment plus violent, plus impérieux, n'absorbe toutes ses facultés et ne le rende inconscient d'un danger que rien ne lui fait prévoir. Nous respirions à peine dans la crainte de troubler Maurice dans sa démonstration. Nous pressentions que la vérité allait se dégager de ses préliminaires. Or, le caractère typique, absolu, évident de cette physionomie, c'est le dégoût. Un dégoût intense, profond, énorme. Vérifions le fait. Le signe caractéristique du dégoût, c'est la contraction de la lèvre inférieure, dont les extrémités s'abaissent, tandis que le milieu de cette lèvre se recourbe sur lui-même et fait, selon une expression vulgaire, mais d'une clarté complète, bourrelet. Nous exécutâmes tous instinctivement le mouvement. Voyez, la lèvre supérieure remonte violemment, la lèvre inférieure s'abaisse. Sous la pression exercée sur les joues par la motion de la lèvre supérieure, les deux plis dont je parlais tout à l'heure et qui sillonnent le visage des narines au coin de la bouche s'accentuent vigoureusement et se creusent. En même temps, le nez se relève et il se forme des plis transversaux à la jonction des sourcils. Les yeux, au lieu de s'ouvrir démesurément, comme dans la terreur, se rapetissent au contraire sous le gonflement des paupières. La peau du front, tirée en bas, est sans rides. Regardez ce portrait. C'est le type du dégoût. Et voilà ce qu'il nous répond lorsque nous l'interrogeons. L'homme est mort dans un accès de dégoût terrible, irrésistible. Ce que je vous dis n'est-il qu'une hypothèse plus ou moins ingénieuse? La réponse est dans la contraction de la lèvre inférieure. Aucune sensation, je dis aucune, n'a pour caractère accessoire ce trait qui est inhérent au dégoût. Le premier degré du dégoût est le dédain. Ici, la langue elle-même nous aide. Lèvre dédaigneuse, la formule existe, c'est la lèvre inférieure qui avance, tandis que la lèvre supérieure s'y appuie fortement. Toutes ces déductions, dit le juré, sont d'une justesse admirable. Oh, il est évident que lors de la crise fatale, de Faudon était sous l'empire du dégoût, Mais allierez-vous le dégoût, sentiment de répulsif et de retraite, si je puis dire, avec cette action violente qui aurait porté la victime à se jeter sur Beaujon? Votre observation, reprit Maurice, vient elle-même au secours de la vérité, vous verrez comment tout à l'heure. Je retiens le mot et, comme on dit au palais, j'en prends acte. Dégoût, sentiment qui a pour résultat le désir de s'éloigner, de faire retraite, comme vous l'avez si bien dit. Or, se retirer d'ici, n'est-ce pas aller là, c'est-à-dire se mouvoir en un sens opposé à l'objet qui cause le dégoût? Plus le dégoût sera violent, plus l'objet qui l'aura causé inspirera la répulsion, et plus sera vif le mouvement de retraite, d'éloignement, c'est-à-dire de tendance vers un point éloigné de celui où se trouve l'objet en question. Supposons que j'ai horreur des crapauds. Je marche dans un pré, vous êtes derrière moi, j'aperçois à mes pieds un de ces horribles animaux, je fais un mouvement de recul, de retraite, et je vous heurte violemment. Je ne sais quelle idée survit à ce moment dans mon esprit. Il me sembla entrevoir le but vers lequel tendait cette démonstration, mais je me contins. Au même instant, on m'avertit que les témoins attendus étaient arrivés. J'allais prendre les dispositions dont m'avait parlé Maurice, puis je revins après avoir placé le médecin auprès de M. de Faudon, père. Dès que je fus rentré, Maurice reprit la parole. Ce premier résultat obtenu, je crois nécessaire de le laisser provisoirement de côté et d'étudier maintenant le caractère et la nature même de la victime. Ici encore, les documents semblent nous faire défaut. Mais vous reconnaîtrez avec moi de quelle importance vont être pour nous certains mots, certaines opinions qui se retrouvent dans les diverses dépositions apportées au procès, importance qui se double par cette considération que ces manifestations n'ont été provoquées par aucune question et ne se rapportent pas à un système conçu d'avance. Je m'explique. Tous ceux qui ont été amenés, par la logique même de leur réponse, à parler du caractère de Defaudon ont appuyé sur sa sensibilité nerveuse. Cette sensibilité était telle qu'on l'avait surnommée « la petite dame ». Vous n'avez pas oublié ce mot. D'autres fois, on lui demandait en plaisantant s'il avait ses nerfs. Et la fille Gangrelot nous a dit, dans son langage trop énergique pour n'être pas exact, « c'était pas un homme ». Dans sa pensée, ce mot s'applique à une sensibilité peu appréciée de ce genre de femme et aussi à une faiblesse d'organisation sur laquelle il est inutile d'appuyer. Vous allez entendre à ce sujet les explications données par la femme qui, à la pension bourgeoise, servait ordinairement de Faudon. Maurice me fit un signe et j'introduisis Mademoiselle Annette, fille de salle au restaurant. Cette brave servante semblait surprise au dernier point de cet appareil si peu usité dans une chambre d'hôtel. Maurice l'invita à s'asseoir. Mademoiselle, dit-il, vous avez sans doute été surprise de la lettre que vous avez reçue. Pour des raisons importantes, je ne vous ai point vu avant aujourd'hui. Vous le reconnaissez, n'est-ce pas ? Oh oui, monsieur, je ne vous connais pas. C'est à votre patron que je suis allé parler, et c'est lui qui a bien voulu me permettre de vous appeler ici. Serez-vous assez bonne pour nous donner quelques renseignements ?
Sur quoi, monsieur ?
Vous connaissiez bien de Faudon.
Oh, le pauvre garçon, je le crois. On a joliment bien fait de condamner l'autre. On a été trop doux, voilà tout.
C'était un bien charmant garçon, n'est-ce pas, ce de Faudon ?
Oh, monsieur est doux comme une fille, qui n'aurait pas fait de mal à une mouche.
Il n'était pas fort, je crois.
Oh, pour ça, non. Et puis, voyez-vous, on sentait qu'une pichenette l'aurait tué, ce garçon. À la moindre chose, il tremblait comme une feuille.
Ah, il tremblait ?
Ah, mais quelquefois, c'était si fort qu'il pouvait à peine tenir son verre.
Mais ce tremblement n'avait-il pas été la suite d'excès ?
Des excès? Oh, n'en dis donc pas de mal. Si c'est pour ça que vous m'avez fait venir, ce n'était pas la peine. Tenez, je me rappelle qu'une fois, il a eu presque une crise de nerfs. Savez-vous pourquoi, le pauvre chéri? Parce qu'il avait trouvé un cri-cri dans son pain. Un cri-cri? Oui, une de ces bêtes noires qui sont chez les boulangers. Oh, je le vois encore, il est devenu tout pâle. Puis il s'est levé de sa chaise tout brusquement, même qu'il a manqué de tomber en arrière. Il était nerveux. Nerveux, oui, c'est ça. Et puis dégoûté, oh, dégoûté comme une petite maîtresse. Nous nous regardâmes avec un signe d'intelligence. Cet interrogatoire, si habilement et si patiemment conduit, corroborait de la façon la plus frappante et la plus inattendue les déductions de Maurice. Il remercia Annette, qui se retira très étonnée de l'importance que l'on paraissait attacher à ses déclarations. « D'après ces renseignements, dit Maurice, vous appréciez comme moi combien l'organisation de De Faudon était susceptible d'excitation. La moindre commotion l'ébranlait. Et j'appelle votre attention sur le détail du cri-cri. Nous allons entendre maintenant M. Lafond, vieux jardinier de la famille De Faudon, dont la déposition, je l'espère, aura la plus grande importance au point de vue qui nous occupe. Le père Lafond était un vieillard de 60 ans, robuste et bien portant. Aux premières paroles qui lui furent adressées, il se mit à sangloter. « Mon pauvre jeune maître !» s'écria-t-il. « Oh, si vous saviez combien je l'aimais !»« C'est vous qui l'avez élevé ?»« Si vrai que j'ai planté un arbre le jour de sa naissance et que c'est aujourd'hui un grand et bel arbre. » « Vous vous souvenez de son enfance quand il courait à travers le jardin ?»« Oui. » C'était un si gracieux petit enfant, tout doux, tout gentil. On le prenait pour une petite fille, même moins qu'il en avait tous les goûts. Un petit peu peureux. Le noir lui faisait grande crainte, et puis surtout, je m'en souviens comme si c'était hier, il détestait les insectes, les bébêtes, comme il disait. Ah, il détestait les insectes, les papillons. Bon, les papillons moins, parce qu'ils étaient jolis. Mais c'était les bourdons, les guêpes, les araignées. Oh, ça le dégoûtait, le pauvre innocent. Et quand par hasard, une de ces vilaines bêtes le cognait dans le jardin, il devenait tout pâle et faisait une grosse moue toute dégoûtée. Vous ne vous rappelez pas quelque fait particulier à ce sujet? Non, je crois pas. Ah tiens, si, fait. Je me rappelle que pendant près de 15 jours, il voulait pas passer par une allée, pourtant bien jolie, sous bois et ombreuse. Moi, je lui disais comme ça, « Mais viens donc, petit !»« Non, non !» Et il criait, il trépignait, alors je l'ai pris dans mes bras, et j'ai voulu passer avec lui. Et il s'est débattu en criant, « La bébête, la bébête !» Croyez-vous ça? C'était parce qu'une grosse araignée avait fait sa toile juste à l'entrée de l'allée, la pauvre bête. Ma foi, je l'ai tué, du reste ça tenait de famille. Monsieur de Faudon est comme cela. Le jardinier fut congédié. Maurice me pria d'appeler le médecin. C'était l'un de nos amis, le docteur R. Mon cher, lui dit Maurice, tu as bien examiné, monsieur de Faudon. Oui, tu peux tenter l'expérience. Tu es sûr que la commotion n'offre aucun danger? Non, aucun danger sérieux, j'en réponds. Malgré son état d'excitation nerveuse, il est très fort et j'affirme qu'il n'y a rien à craindre. Mais qu'allez-vous faire? S'écria l'avocat. Mais je vais tenter une expérience décisive. La scène qui va se passer vous édifiera complètement sur les faits qui vous intéressent et quelques dernières explications seront à peine nécessaires. J'ai dû seulement prendre certaines précautions afin que la santé de M. de Faudon n'eût pas à souffrir d'une épreuve qui aurait pu être dangereuse dans son état. Vous avez entendu la réponse du docteur? Je crois que nous pouvons agir. Faites donc, répondîmes-nous. Monsieur de Feudon, père, entra. C'était, on ne l'a pas oublié, un vieillard petit, très maigre et agité, d'une sorte de tremblement continuel. Ses jambes paraissaient avoir peine à le soutenir. Maurice le fit asseoir sur un fauteuil. « Monsieur, lui dit-il, quelle que soit la douleur que vous ait fait éprouver la perte de votre fils, j'espère que vous serez assez bon pour bien vouloir répondre aux quelques questions que je vais vous poser et qui n'ont d'autre but que la recherche de la vérité. » Maurice s'était assis auprès du vieillard devant la table. Il attira lentement à lui une petite boîte carrée et posa le doigt sur le couvercle. « Peut-être ma demande vous paraîtra-t-elle étrange. Vous souvenez-vous de l'histoire de Pélisson ?»« De Pélisson ? Oui, emprisonné. Pélisson, dans sa solitude, eut la singulière idée d'apprivoiser un animal qui ordinairement inspire à tous la répulsion la plus grande. Il trouva une araignée dans un coin de sa prison, une grosse, horrible araignée. Maurice s'appuyait sur les mots et regardant fixement de Feudon, père. Oui, il eut le courage de la prendre entre ses doigts, de l'approcher de son visage, tandis que ses longues pattes remuaient. « Ah, oh, c'est monsieur !» s'écria le vieillard. « C'est répugnant !»« Répugnant, et pourquoi ? L'astronome Lalande mangeait bien les araignées, vivantes !»« Ignoble !» murmura le vieillard en frissonnant. « Mais oui, il portait sur lui une petite boîte, semblable à celle-ci. » Il montrait la boîte dont j'ai parlé. Il la tournait dans ses doigts, comme il eût fait d'une bonbonnière. Puis à certains intervalles, il l'ouvrait. Monsieur de Feudon, père, avait les yeux fixés sur la boîte. Son visage se décomposait, devenait livide. Et il en tirait. « Tenez, comme ceci !» Maurice ouvrit la boîte, y plongea les doigts et en retira une araignée énorme qu'il approcha vivement du vieillard. Celui-ci, comme frappé d'une commotion électrique, bondit sur sa chaise, se redressa de toute sa hauteur et, poussant un cri rauque, se rua sur le médecin comme le noyé qui s'accroche à une planche de salut et lui jeta ses bras au cou. Le médecin, par un mouvement rapide, lui mit au front une serviette mouillée qu'il tenait préparée. Le vieillard s'affaissa, il était évanoui. Il y eut un long moment de silence. Le médecin tâtait le pouls du vieillard, il nous rassura d'un geste. « Oh, rien à craindre, il se remet. » L'avouerai-je, nous étions tous horriblement pâles. Le hideux animal se débattait entre les doigts de Maurice et sa laideur dégoûtante nous fascinait. Nous ne pouvions en arracher nos regards. Maurice s'en aperçut, le replaça dans la boîte et s'approcha du vieillard. Celui-ci revenait peu à peu à son état normal. Le médecin lui donna le bras et tous deux sortirent. « Avez-vous enfin compris ?» s'écria Maurice. « Le coupable est là, dans cette boîte. C'est ce hideux animal qui a tout fait. Lorsque, sur le visage du mort, j'ai lu cette expression de dégoût, je me suis rappelé les explications de Beaujon. De Feudon était dans son lit. Tout à coup, son regard est devenu fixe. Il a battu l'air de ses mains. Beaujon a vu quelque chose de noir sur son visage, comme une tache. L'homme s'est jeté à bas de son lit et s'est élancé vers Beaujon, qui l'a étreint de ses bras. Donc un objet, un être capable d'exciter le dégoût, voilà ce qu'il fallait trouver. Eh bien, messieurs, regardez. » Maurice écarta le rideau du lit et nous vîmes, se collant du plafond à la flèche, une énorme toile d'araignée grise épaisse. C'est à cette toile que j'ai arraché l'animal. Que s'est-il donc passé? La lampe était sur cette cheminée, sans globe ni abat-jour, jetant la clarté blafarde du pétrole. L'animal était sorti de sa toile. Il était sur le rideau, sa teinte noirâtre tranchant d'autant plus sur la blancheur du tissu. Par un accident dont nous n'avons pas à rechercher la cause, tandis que De Faudon, fasciné à sa vue, fixait sur l'araignée son regard effrayé, l'animal est tombé sur son visage. C'est la tache noire. Et De Faudon a battu l'air de ses mains comme pour écarter l'ennemi répugnant. Puis dans le paroxysme du dégoût, il s'est enfui, il a fait retraite et s'est jeté sur Beaujon. Le reste s'explique de soi-même. Au moment où il saisissait Beaujon au cou, celui-ci s'est dégagé par un mouvement brutal. La commotion a déterminé la mort immédiate de De Faudon. Mais Beaujon n'était-il pas innocent? Maurice avait vaincu. Le jugement fut cassé par la cour et renvoyé devant d'autres assises. Maurice fut appelé à titre d'expert. Beaujon fut acquitté. « Eh bien, me dit Maurice, qu'en dites-vous ? Il vous reste un devoir à accomplir, lui répondis-je. Faites des élèves !»